Robillard.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics.
Bienvenue et bonjour Olivier Dussopt. À l'annonce d'un possible vaccin anti-Covid, les bourses, notamment européennes, se sont envolées. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme?
C'est d'abord un signe d'optimisme, évidemment, et n'étant pas médecin ni en charge de la santé, je reste nécessairement prudent. Sauf que toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre. Et que lorsque on a ce type d'informations, ça participe aussi à un sentiment général, ce qui est très bien.
Et quel est le montant de la provision éventuellement allouée à l'achat du vaccin?
Aujourd'hui, nous ne savons pas quel sera le vaccin qui sera diffusé en France et utilisé en France lorsqu'il sera prêt. Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous avons prévu 1,5 milliard d'euros, ce qui, avec le coût moyen qui est estimé et qui est espéré, permettrait 35 millions de vaccinations. Et nous avons fait en sorte que ce PLFSS, ce projet de loi de financement, comme tous les PLFSS, puisse être rechargé autant que de besoin si un vaccin était prêt l'année prochaine.
Donc 35 millions de vaccins de doses...
Sont d'ores et déjà provisionnés, mais je le répète, et nous l'avons montré au cours de l'année 2020, à chaque fois qu'il y a des besoins nouveaux dus à la crise, nous avons su faire face et l'État a répondu présent.
Alors c'est une bonne nouvelle, en tous les cas on l'espère, espoir tous pour le vaccin, mais il y a une mauvaise nouvelle, monsieur le ministre, ce matin sur le front de l'emploi. Le taux de chômage au troisième trimestre connaît une très forte hausse de 9% en France, selon l'INSEE. C'est un coup rude.
Il atteint 9%, effectivement. Il atteint 9%. C'est à la fois un coup rude, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu des contrats courts, qui ont un risque de précarité. Ça n'est malheureusement pas une nouvelle surprenante, puisque c'est la traduction de la baisse d'activité et de la crise que nous traversons.
Après le confinement, parce que le chiffre précédent, c'était un chiffre en trompe-l'œil, c'est ça?
C'était un chiffre en trompe-l'œil, puisque un certain nombre de personnes n'avaient pas pu faire de démarches. L'activité s'était arrêtée avec ce qu'on appelle le halo des demandeurs d'emploi, les termes de l'INSEE, qui s'était fortement augmenté. Et là, il y a une forme de régularisation, de sincérisation des chiffres. Ça n'est évidemment pas une nouvelle.
C'est-à-dire que là, c'est la réalité crue de notre marché de l'emploi.
Ça reflète le marché de l'emploi et ça le reflète dans les deux sens. À la fois par l'augmentation du nombre de chômeurs, ce qui est la mauvaise nouvelle, mais aussi par le fait, quand on regarde le détail, que le troisième trimestre, qui a été marqué par un regain d'activité très fort, 18% de croissance au troisième trimestre, s'est aussi traduit par plus d'emplois, de manière générale, au niveau du taux d'emploi, de l'emploi des jeunes, ce qui démontre le regain d'activité avec, nous le savons, ce problème de reconfinement, de deuxième vague épidémique, qui peut avoir des conséquences. Il est encore un peu tôt pour les mesurer en termes d'emploi. Le recours au chômage partiel...
Mais déjà, le premier confinement, on voit déjà,
le premier confinement
ces chiffres,
un confinement total, avec une fermeture des écoles, avec des difficultés pour les uns et pour les autres, pour aller travailler faute de solutions de garde. Nous ne sommes pas dans la même configuration et les chiffres de demande d'activité partielle, de financement du chômage partiel sont importants pour ce second confinement, mais sans commune mesure à ce stade avec le premier.
Mais malgré tout, Olivier Dussopt, là, évidemment, le contexte économique est morose et vous avez quand même budgété un confinement jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est l'hypothèse privilégiée?
Alors, mais vous l'avez fait. Pour être tout à fait précis, le ministère des Comptes publics et le ministère de l'Économie n'ont pas compétence pour déterminer la durée du confinement. C'est une question sanitaire et l'État, le gouvernement ont toujours privilégié la santé avant tout.
Mais vous l'avez budgété.
Par contre, nous avons été prudents.
Prudents ou réalistes?
Nous proposons à l'Assemblée nationale et au Sénat d'inscrire 20 milliards d'euros pour répondre à la crise. Et quand on ajoute les sommes que nous avions déjà inscrites avec le troisième PLFR au mois de juillet, nous avons de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année 2020. Personne ne souhaite que le confinement soit aussi long, mais la responsabilité du ministre des Comptes publics que je suis, c'est de faire en sorte que, au cas où, l'État soit prêt.
Mais est-ce que c'est de la prudence, monsieur le ministre, ou
présent.
En fait, vous avez déjà tout prévu pour un confinement jusqu'à Noël?
Je le répète, je ne suis pas là pour décider de la durée du confinement. Bercy ne décide pas de la durée du confinement, c'est une question sanitaire avant tout, et le président de la République, comme le Premier ministre, auront à s'exprimer. Notre responsabilité à Bercy, et ma responsabilité comme ministre des Comptes publics, c'est d'être prudent et de faire en sorte que, au cas où, dans la pire des hypothèses, celle que nous ne souhaitons pas, l'État soit aux côtés des entreprises. Nous engageons pour le mois de novembre 15 milliards d'euros pour aider les entreprises.
Alors,
avec un fonds de solidarité qui, avant, concernait les entreprises de moins de 10 salariés. Là, on parle d'entreprises de moins de 50 salariés, qui avant étaient plafonnées à 1500 euros et qui, là, pourraient aller jusqu'à 10 000 euros. Avec la volonté de financer le chômage partiel, la volonté d'exonérer les cotisations,
c'est 15 000 euros par mois. Mais prudence, dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas, c'est bien la prudence, un excès de prudence. La Banque de France, Olivier Dussopt, tape sur une récession de 9 à 10% en 2020. Pourquoi vos prévisions sont toujours plus pessimistes?
Nous prévoyons une récession de 11%, de la même manière qu'en septembre, après le premier confinement, nous imaginions une récession de 10% avant ce deuxième épisode. Déjà, la Banque de France, pour ne parler que de cet acteur, que de cette institution, prévoyait, anticipait une récession moins importante. Nous préférons, je le répète, au risque de paraître obsédé par cela.
Mais pourquoi,
nous préférons la prudence parce qu'en matière
vous voulez annoncer une moins mauvaise nouvelle à la fin, avoir une marge...
En matière de finances publiques, il vaut mieux être prudent qu'imprudent. J'ai été maire pendant 10 ans. Je peux vous assurer que j'ai géré ma commune avec la même méthode.
Ouais.
Réduire la dette, réduire les dépenses, diminuer les impôts, et toujours de la prudence parce que je préfère sous-estimer les recettes et sous-estimer les dépenses que l'inverse.
Alors vous avez la prudence dans ce domaine et la dette de l'État, monsieur le ministre, qui s'en va à 12%. Est-ce que la zone rouge est atteinte?
Alors la dette de l'État ne représente pas 12%, pardonnez-moi. Le déficit public va être 11% et la dette de l'État, la dette publique, pardon, va atteindre au total 120%
du PIB. Exact.
Et c'est un chiffre qui est énorme. Ça s'explique pour le déficit de cette année. Essentiellement par une perte de recettes. La baisse d'activité signifie moins d'impôts, moins de cotisations perçues.
Oui, d'accord, mais c'est la première fois que l'État vit autant de la dette que de l'impôt.
Et des dépenses très importantes. Ça n'est étonnable, cette situation que vous décrivez, qu'à une, voire deux conditions. La première condition, c'est que ça ne soit pas durable. Et ce que nous engageons comme dépenses, le chômage partiel, le fonds de solidarité, qui sont les principaux postes budgétaires, ce sont des dépenses qui s'arrêtent quand l'activité repart.
Oui, mais monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un montant à ne pas dépasser? Est-ce que ce matin, vous dites qu'il y a un montant à ne pas dépasser en matière de dette pour nos finances publiques, ou alors c'est nos limites?
Vous savez, en matière de dette, moins on en a, et mieux c'est. C'est du bon
ça
sens.
Ça ne répond pas à la question.
Et de la même manière
même si
que
bon
les
sens.
Français savent très bien qu'une dette, ça se rembourse.
Ah bon?
Nous, ce que nous,
c'est sûr?
Une dette se rembourse. Vous savez, quand vous voulez emprunter, et la France emprunte dans des conditions qui sont très très favorable parce que nous sommes crédibles et parce que les investisseurs nous font confiance. Si vous allez voir votre voisin et que vous lui demandez de vous prêter de l'argent, si la première chose que vous lui dites c'est que vous ne lui rembourserez pas, il a assez peu de chances qu'il vous prête. Donc nous avons cette crédibilité, nous continuons là-dessus et je le dis, deux conditions, le fait que les dépenses que l'on fait pour répondre à la crise, qui sont ciblées, qui sont efficaces, que nous devons engager pour sauver l'économie et aider les Français, doivent être des dépenses ponctuelles, qui ne s'inscrivent pas durablement dans le temps, qui s'arrêtent avec la fin de la crise. Et la deuxième condition, c'est de continuer à maîtriser les autres dépenses publiques. Ce que nous faisons, c'est de continuer à réformer.
Pardonnez-moi, l'État vit autant de la dette que de l'impôt, c'est quand même frappant.
Cette année, et vous avez raison, c'est un chiffre qui est frappant pour reprendre votre expression. Notre responsabilité, c'est à la fois de répondre à la crise, nous le faisons, c'est aussi, et c'est le deuxième aspect de notre politique budgétaire, de mettre en œuvre le plan de relance, de soutenir l'activité économique. Notre objectif, c'est d'ici 2 ans, retrouver le même niveau de production que fin 2019, parce que nous générerons des recettes, nous aurons moins de dépenses et nous pourrons retrouver
un
chemin d'équilibre.
Voilà pour le niveau de production, mais combien de temps nous faudra-t-il pour revenir à un niveau d'endettement comparable à celui de la veille du premier confinement, c'est-à-dire le
plusieurs années.
Plusieurs années, au-delà de la fin du quinquennat, on est dans l'autre quinquennat.
Plusieurs années, et c'est la même chose pour un certain nombre d'indicateurs comme la règle des 3%, et j'aurai l'occasion bientôt de m'appuyer sur les travaux d'un groupe de travail que je vais mettre en place avec des personnalités
encore
qualifiées.
Encore un groupe
reconnues.
De travail
savez, il, y a beaucoup
il,
de...
il faut vraiment un groupe de travail pour établir quand, un plan pour réduire notre dette.
Quand vous voulez que ce plan soit partagé, quand vous voulez que les objectifs à moyen et à long terme soient les plus partagés possibles, c'est bien de pouvoir échanger, d'avoir des personnalités qualifiées, éclairées sur ces sujets-là, qui fassent à la fois la synthèse des différents travaux réalisés et qui puissent nous accompagner. Je souhaite que ce plan de retour à l'équilibre, ces trajectoires de retour à l'équilibre, soient les plus consensuels et les plus partagés possibles.
Oui, mais il faut que ce soit aussi, j'allais dire, clair.
Crédible.
Oui, vous m'avez repris d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai dit la dette de l'État, c'est bien 120%. Est-ce qu'il y a une limite, monsieur le ministre? Est-ce que vous dites à partir de 125, 130, 140, c'est plus tenable?
Je ne sais pas dire si il y a un chiffre qui serait une limite. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà. S'écarter plus.
Au-delà de quoi? De 120%?
Il ne faut pas s'éloigner plus et ne pas creuser plus l'écart avec l'Allemagne. Nous sommes entrés dans cette dette avec une dette plus importante que l'Allemagne. Et pour le moment, les augmentations sont assez parallèles, ce qui fait que l'écart ne s'accroît pas, ne s'élargit pas. Il faut veiller à cela. Et je le répète à nouveau, une de mes responsabilités, c'est de faire en sorte que ces dépenses massives que nous engageons pour répondre à la crise et pour la relance soit ponctuel et que ça ne vienne pas sédimenter de la dépense publique au-delà des années de relance.
Alors comment vous ne voulez pas nous donner... On a compris que c'est au-delà de ce quinquennat, c'est donc soit pour le successeur d'Emmanuel Macron, soit pour Emmanuel Macron s'il a encore un quinquennat, on ne sait pas, on verra. Mais comment, monsieur le ministre, on va rembourser cette dette sans augmenter les impôts des Français et avec une activité économique à l'arrêt? Parce que ça mérite le prix Nobel.
En produisant et en relançant l'activité. Ce gouvernement
se caractérise... Mais elle est à l'arrêt aujourd'hui.
Nous travaillons... D'abord, elle n'est pas totalement à l'arrêt, puisque vous avez cité la Banque de France. Permettez-moi de m'appuyer aussi sur sur leurs travaux. La Banque de France considère que le choc que représente ce mois de confinement représente une perte sur le mois qu'on estime à 12% de la production. C'est moins important que ce que nous-mêmes craignons au niveau des services de Bercy. Donc nous sommes sur 12% alors qu'au mois d'avril, nous étions à plus de 30% de baisse.
Vous ne me répondez pas sur les impôts.
J'y arrive. Sur les impôts, puisque nous avons cette ligne-là, nous sommes le gouvernement qui les a le plus baissés. 45 milliards d'euros de baisse d'impôts, moitié ménage, moitié entreprise. Nous considérons qu'on ne répond pas à une crise et qu'on ne sort pas de la crise en augmentant les impôts. Par contre, nous considérons que tout ce qui permet de relancer l'activité, de la soutenir, d'accompagner la transition de l'industrie et de l'activité économique, ça génère de la croissance, ça génère de la richesse.
Mais monsieur le ministre, comment vous parliez sur la croissance avec tous les commerces fermés, d'où est-ce qu'elle viendrait alors qu'on est confiné?
Les commerces sont fermés, nous souhaitons toutes et tous que l'épidémie soit contenue pour qu'ils puissent à nouveau ouvrir. Nous sommes dans une période de confinement, avec ces difficultés, avec cette baisse d'activité que j'ai évoquée, qui a vocation à être ponctuelle, conjoncturelle. Le plan de relance que j'ai évoqué, il est sur 2 ans. Ce que nous disons, c'est que retrouver l'activité de fin 2019, qui était une bonne année, nous nous donnons cet objectif d'ici fin 2022, ce qui démontre que nous prenons tenons compte des difficultés rencontrées sur l'année 2020.
Concrètement, on fait comment? Sans augmenter les impôts, je ne vois pas comment on peut faire.
Je le répète, on booste l'activité. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. C'est la baisse des impôts de production. Et hier, l'Institut Rexecode nous disait...
Donc c'est la méthode Coué, que ça reparte.
Non, ça n'est pas la méthode Coué parce que... Je vais vous donner une illustration pour vous montrer que ça n'est pas la méthode Coué. Quand nous mettons en place des mesures d'urgence aussi fortes que celles du printemps, quand dès le mois de juillet, nous votons les premières mesures du plan de relance, la prime pour l'embauche des jeunes, la prime à l'apprentissage, les premiers appels à projets pour accompagner la transition de l'industrie, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que le troisième trimestre, c'est 18% de croissance, plus forte au européen, plus que les prévisions, 2 fois ce qu'a fait l'Allemagne. Ce qui démontre que les outils qu'on met en place sont utiles pour soutenir l'activité et que notre chemin est le bon. Soutenir l'activité, retrouver le niveau de production, retrouver notre niveau de recette sans augmenter les impôts.
Sans baguette magique.
Et sans augmenter les impôts.
Et sans baguette magique.
Je n'ai pas de baguette magique, mais par contre, j'ai de la volonté et de la détermination.
Merci de nous en avoir fait part, monsieur le ministre, ce matin sur Europe 1, Olivier Dussopt. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.